Merci d'écouter Inter, il est 18h17. This is Radio Free. Brutus in Colombia.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir à Bruxelles et à Kiev, et avec un reportage sur les traducteurs afghans de l'armée française. C'est le menu d'ailleurs dans le monde de Michael Thébault. On fera le point sur la campagne en Allemagne, aussi importante que la présidentielle française ou que l'élection néerlandaise aujourd'hui. Nous vous proposons un nouveau rendez-vous dans l'émission pour suivre cette campagne avec Cyril Sauvageau en direct de Berlin. 18h55, l'édito d'Arnaud Leparmentier du quotidien Le Monde. Comment sortir par le haut de la crise entre l'Europe et la Turquie? Tout de suite donc, les Pays-Bas.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Le pays vote aujourd'hui et c'est donc la première des trois élections majeures qui se déroulent cette année en Europe, dans l'ordre Pays-Bas, France et Allemagne. Avec sa propre dynamique, l'élection néerlandaise a tout de même valeur de test pour nous en France. Elle est un baromètre aussi pour l'Europe. Elle ressemble à ce qui se joue ici avec des partis traditionnels obligés de se positionner par rapport à un populisme puissant qui, aux Pays-Bas, a dicté les termes de la campagne. Après le Brexit, après Donald Trump, avant la France et l'Allemagne. Que peut-il donc se passer aux Pays-Bas? Petite soirée électorale en studio à France Inter, en compagnie de Stéphane De Vries. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant RTL Pays-Bas en France. Christophe De Vogde, bonsoir. Historien, professeur à Sciences Po, ancien directeur de la Maison des Cartes, c'est l'Institut français des Pays-Bas. Deux ouvrages, Histoire des Pays-Bas des origines à nos jours, chez Fayard, et aussi Pays-Bas, la tentation populiste. Je salue Bertrand Galichet. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Nicolas.
Envoyé spécial de France Inter en direct d'Amsterdam. Un mot pour commencer Bertrand sur Geert Wilders, on va en parler évidemment, il a retenu toute l'attention, mais peut-être un peu trop, non, pour une majorité de Néerlandais.
Oui, et Geert Wilders, vous avez raison, c'est bien sûr celui qui capte la lumière des médias européens en ce moment, puisqu'il incarne cette droite qui semble prendre de l'ampleur et qu'il inaugure aussi le premier des trois scrutins européens importants cette année, les Pays-Bas, donc la France et l'Allemagne. Cette notoriété exaspère un peu ses adversaires, pour tout dire, puisqu'il la trouve injustifiée. Et ici, les autres partis rappellent volontiers que même si Wilders représente un électeur sur cinq demain, cela signifierait que l'immense majorité des Néerlandais ne votent pas pour lui. J'en ai même fait l'expérience à plusieurs reprises ces derniers jours avec des militants ou des élus qui contestent au chef de file de la droite populiste son statut de faiseur de roi. Et ils ont raison puisque les principaux autres partis, il y en a 28 au total, qui présentent des candidats à cette élection, ont promis de ne pas s'allier avec Wilders. Or, pour gouverner ce pays, il faut une coalition d'au moins 3 ou 4 formations politiques. Ce sera l'objet des négociations qui commenceront à partir de demain et qui pourraient durer des semaines, voire des mois. Donc Wilders ne sera pas celui qui tirera les ficelles au lendemain de ce scrutin. En revanche, et ça c'est certain, il a obligé pendant la campagne les autres partis à se positionner sur un certain nombre de sujets. Le Premier ministre sortant, Mark Rutte, a ainsi dû prendre une position très ferme vis-à-vis de la Turquie ce week-end, ce qui a conduit à l'incident diplomatique que l'on sait.
Bertrand Galichet en direct d'Amsterdam, on va vous retrouver dans quelques instants mon cher Bertrand. Analyse du phénomène Wilders, Stéphane De Vries, évidemment très grande attention portée à ce personnage en Europe et même plus loin dans le monde. Il ne sera pas le faiseur de roi, il ne risque pas d'arriver au pouvoir en situation majoritaire, mais il a dicté les termes du débat, c'est bien ça?
Absolument, et c'est un peu paradoxal parce qu'il a été absent du débat, il n'a pas voulu donner des interviews, il a participé qu'à deux débats, il n'y a pas eu des grands meetings parce qu'en fait c'est pas un parti politique, il est tout seul, il n'y a pas de militants.
C'est lui?
C'est lui, le parti, le roi c'est moi. Donc il a été très absent dans le public, sur la place publique. Et en fait, ce sont les autres qui ont fait la campagne pour lui, parce que même quand il était absent, son esprit était là. Donc, en effet, il a dominé certains sujets de la campagne, notamment sur l'identité nationale. Et puis, les sujets vraiment importants, comme l'environnement, le changement du marché du travail, tout ça, On a un peu oublié dans la campagne, donc on voit bien la présence, le poids qu'il a, qui est complètement disproportionné à son véritable poids dans les sondages et dans les résultats.
Il a la capacité, Christophe De Vogt, à imposer les termes du débat, à imposer en tout cas un certain nombre de questions à la classe politique et au débat public chez vous ?
Chez les Néerlandais, puisque je ne suis qu'à moitié de ce pays. En fait, oui, vous avez raison, je pense qu'il y a à la fois aussi un phénomène un peu général qui est la montée du populisme depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, qui est liée à beaucoup de phénomènes. On aura peut-être le temps d'y revenir. Et puis le fait aussi qu'il faut lui reconnaître un certain talent, est un peu un talent aussi général des populistes, un talent rhétorique auquel moi je suis sensible parce que c'est ce que j'enseigne, et qui a été une force dans son ascension. Peut-être qu'il y a des choses comparables en France, n'est-ce pas ? Et peut-être aussi, un certain nombre de vérités aussi qui sont sorties de ce débat, c'est-à-dire, c'est vrai, les difficultés de l'intégration qui sont réelles, que Pim Fortuyn avait déjà soulevées. La crise économique qui a été durable aux Pays-Bas, on l'oublie parfois. Et puis bien la crise identitaire. Mais la grande différence, et Stéphane l'a bien rappelé, la grande différence avec nos situations par exemple, c'est que désormais l'aspect économique n'est plus là aux Pays-Bas. Le pays va bien. Donc si j'ose dire, il manque le chômage.
Mmh. Oui. Mais ça n'empêche pas un populiste de prospérer. On retrouve cette logique-là où un pays qui va bien économiquement peut en même temps avoir, dans la représentation qu'il a de lui-même, le sentiment d'être en crise profonde. Je me trompe ou pas ?
Non, Stéphane absolument de Vries. Non, en fait, je pense que le problème aux Pays-Bas, une explication de sa popularité pourrait être le fait qu'un Néerlandais, et probablement aussi un Français, il se compare à son voisin. Donc quand le voisin a une voiture plus grande que toi, tu te sens délaissé, tu penses, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi j'ai pas ça? Donc, un Néerlandais se comparerait jamais à un Français, et dans ce cas-là, le Néerlandais verrait qu'il est beaucoup, beaucoup plus riche et beaucoup plus heureux. Donc, il se compare à son voisin, et là, la comparaison est plutôt négative pour une partie de la population, et cette partie-là est sensible à la rhétorique de Wilders. Lui, il va rendre le pays d'antan. On va revenir à une époque où tout était formidable, où les frontières étaient fermées. Il va rendre les Pays-Bas aux Néerlandais. On reconnaît très bien les slogans aussi de Donald Trump, par exemple, ou de Marine Le Pen. Ils renvoient tous à une passé qui n'a jamais vraiment existé, mais dont une partie de l'électorat est vraiment très sensible.
Bertrand Galichet, un point sur les questions économiques. On le disait, le pays se porte plutôt bien. Il a traversé la crise, ça a été rude, comme pour beaucoup. Mais là, c'est plutôt une économie qui fonctionne, non Bertrand ?
Ah oui, c'est une économie, une situation dont beaucoup rêveraient en Europe et notamment en France. Les quelques chiffres que je vais vous donner vont vous éclairer, même si je ne veux pas être trop exhaustif. Mais bon, le taux de chômage ici, il est de 5%. Pendant la crise, il n'a jamais dépassé environ 8%. C'est donc un très bon chiffre. Le chômage des jeunes est à peu près à 10%. Il y a une protection sociale élevée ici, qui coûte cher aux Néerlandais, mais qui fonctionne bien. La dette représente 60% du PIB. En France, vous le savez, la dette publique, c'est 99%. Il y a un excédent budgétaire d'1,5%. Donc, vous voyez, les exportations sont très fortes. Il y a un fort excédent des exportations néerlandaises. L'économie se porte bien. C'est une économie qui est dynamique, qui exporte beaucoup, je vous le disais, et qui est aussi une économie d'exportation de haute technologie, c'est-à-dire avec beaucoup de valeur ajoutée. Mmh.
Christophe De Vogt, vous parliez de rhétorique tout à l'heure. Pourquoi, excusez l'expression, ça parle aux Néerlandais, un discours comme celui de Wilders dans un contexte économique comme Bertrand vient de le décrire? Pourquoi ça accroche? Qu'est-ce que ça accroche?
La rhétorique, c'est la constitution, vous savez, ce qu'on appelle justement le « we group ». C'est-à-dire, ce qui accroche, c'est cette idée, le mot qui revient le plus chez Wilders, c'est « nous ». Hein. Notre pays, « ons Nederland », comme il dit, et leur Bruxelles, hein, vous voyez, tout de suite. Hein.
Ouais. Nous. Donc, et eux.
Nous, ouais. Et eux, et ça c'est un... C'est
un ressort puissant.
Oui, chapitre premier de la rhétorique.
Oui,
hein.
Oui.
Je crois que vous aimez bien les mots, et vous les connaissez bien. Et là-dessus, je crois qu'on oublie un peu de travailler sur leur rhétorique, de tous ces populistes, pour la contrer notamment. Ils ont l'art de revenir à des règles et de les manier très habilement. Ils ont d'ailleurs souvent fait des études, soit de droit, soit de lettres, qui leur permettent de bien maîtriser ça. Et ce discours, c'était particulièrement fort avec, je dirais, Fortuyn était encore plus fort dans ce domaine. Nous avons eu deux grands leaders du Front National qui sont d'excellents tribuns, et ça,
orateurs.
On peut le retrouver aussi de ce qu'on peut appeler le populisme de gauche, c'est aussi une vérité, en Hollande comme en France d'ailleurs. Bref, vous avez là quelque chose que, dans un pays qui ne cultive guère la rhétorique, et là je ferai peut-être une petite différence avec la France, dans un pays où les leaders politiques ne sont pas des tribuns exemplaires et remarquables, un petit peu d'ailleurs comme en Allemagne, ces gens-là font un petit peu la différence, c'est-à-dire qu'ils font le show.
Oui.
Et là, on peut aussi faire un parallèle avec les États-Unis. C'est-à-dire que face à une classe, on va dire, politique qui est un petit peu convenue.
Sérieuse et terne.
Sérieuse et terne, grise, comme on dit aux Pays-Bas. Eh bien, là, on a des gens qui tranchent aussi, qui sont un petit peu iconiques. Regardez sa chevelure, hein. Comme Fortuyn était aussi iconique, qui ont aussi compris le temps des nouveaux médias.
Oui, de la télé, du show, c'est ça. Ça a été une campagne, très spectaculaire, Stéphane De Vries.
Geert Wilders a surtout mené sa campagne sur Facebook et Twitter, parce qu'il déteste les médias, surtout les médias publics, parce qu'on est tous des traîtres de gauche et élitiste.
Et puis, ça marche chez vous aussi, alors, ça?
Absolument, absolument. Donc, même s'il y a beaucoup plus de médias, même dans les médias publics, il y a les médias de droite et de gauche aux Pays-Bas. Donc, c'est un peu différent d'ici. Mais en tout cas, il déteste les médias publics.
Ici, il n'y a que des médias publics de droite, c'est ça?
Je ne sais pas, je vous laisse l'appréciation.
Oui, oui.
En tout cas, il n'a donc pas du tout utilisé ces médias, mais c'était devenu un instrument aussi pour dire, regardez, eux, ils sont contre nous, encore une fois. Donc eux, donc moi, nous, les journalistes, les médias de gauche. Et donc, je n'ai pas besoin d'eux. C'est exactement la même stratégie que Donald Trump qui a pas beaucoup dépensé, finalement, pour sa campagne. Wilders, il n'a pas d'argent non plus, parce que ce n'est pas un parti. Donc, il a été assez créatif. Et puis, je pense que maintenant, on voit dans les derniers sondages d'hier soir, par exemple, il perd vraiment beaucoup de terrain. Et il paye, à mon avis, son absence, justement, dans les médias classiques, traditionnels. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il passe à la télé, il se passe quelque chose. Même à l'Assemblée, il a en effet le talent de il dit un mot, un gros mot, il lance une phrase vraiment très très choc, et ensuite il part et il laisse les autres ramasser les miettes.
C'est assez théâtral au fond.
Absolument, très théâtral. Et les autres politiciens néerlandais n'ont pas vraiment la réponse, hormis quelques exceptions. Il y a notamment la montée spectaculaire des Verts, qui ont une leader qui a 30 ans.
On va en dire un mot. Oui.
Ouais. Et donc lui, il est capable de tenir en face de Wilders. Mais à part ça, extrêmement théâtral et beaucoup de show.
Alors Bertrand, justement, parlez-nous de ce trentenaire candidat des écolos, l'anti-Wilders par excellence. Il pourrait créer la surprise, il s'appelle Jess Klaver.
Oui, Jesse Klaver n'est pas connu en France, en tout cas beaucoup moins que Geert Wilders. Il se présente comme la version européenne du Canadien Justin Trudeau. Alors, il revendique une ressemblance physique, même avec lui, c'est pas forcément évident, mais il joue un peu là-dessus. Il a 30 ans, il est très charismatique, il attire les foules, il surfe sur la tolérance, sur le respect des cultures, et en creux, je dirais que c'est un peu l'anti-Geert Wilders. Il est capable d'attirer un électorat pour lequel l'extrême droite, le PVV, fait figure de repoussoir. Alors lui, contrairement à Geert Wilders, pourrait en revanche être un faiseur de roi s'il réussit un bon score aujourd'hui. En tout cas, il représente un courant politique, la défense de l'environnement, qui compte beaucoup ici.
Donc c'est possible de jouer avec les mêmes armes qu'un populiste tel que Geert Wilders et de trouver un écho réel dans la population, hein, Stéphane De Vries.
Oui, justement, l'exemple de Jesse Klaver, moi je le trouve très intéressant parce que probablement, il faut croire les sondages ou pas, mais en tout cas, il va probablement quintupler le score des Verts. Donc quand on compare ça à la situation d'Europe Écologie des Verts ici en France, c'est très très impressionnant et je pense qu'il représente justement un une contre-réaction, un contre-coup contre tout le populisme. Je pense aussi que la population voit le Brexit, voit ce qui se passe avec Trump, et il y a beaucoup de gens qui se disent non, je veux pas ça. Donc ils vont voter pour les Verts ou pour une autre parti qui est très proche, c'est le D66, les sociaux-démocrates, qui eux aussi feront un très très bon score ce soir. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant que le phénomène Wilders.
On a beaucoup comparé cette élection donc aux Pays-Bas avec ce qui se passe ici en France pour la campagne présidentielle. Avant de voir quels sont les scénarios possibles d'un point de vue politique, une dernière question sur le type de populisme tout de même et d'extrême droite qu'incarne Wilders. C'est pas la même extrême droite que l'extrême droite française.
Alors c'est toujours, bon, c'est l'éternelle question qu'on va pas peut-être trop rediscuter ici de l'extrême droite, parce qu'il y a des choses qui sont pas du tout d'extrême droite dans ce que dit Wilders, qui est par exemple la défense du droit des femmes et des homosexuels.
Hein, oui. Mais qui est une attaque
contre
l'islam. Oui, voilà, oui. C'est une défense qui est une attaque.
Au nom de valeurs qui sont, où justement l'extrême droite traditionnelle ne s'y retrouve absolument pas. Et là, d'ailleurs, ça introduit des variantes de populisme par rapport à d'autres pays du Nord. Il y a ceux qui, justement, vont dans le libéral sociétal et il y a d'autres qui restent très conservateurs en matière de mœurs. C'est ça, intéressant comme distinction. Et alors, aux Pays-Bas, ça va, ils vont très loin, puisque c'est pas seulement, je dirais, une défense. Pensez que Fortuyn était un homosexuel revendiqué. Ouais. Hein, c'est-à-dire, donc on a.
Et c'est vous, les immigrés, qui allez menacer notre mode de vie, nos acquis sociaux, nos acquis culturels. C'est ça le ressort. Cette forme de xénophobie ou de racisme.
Et particulièrement autour de la question, alors là, c'est un point commun dans tout le nord de l'Europe et peut-être aussi en France maintenant, de l'islam radical. Puisque c'est plutôt autour de cette question. Hein, l'islam par rapport à ces droits-là. Vous voyez, c'est un peu complexe et on peut toucher aussi des catégories de population qui a priori ne pouvaient absolument pas être portées à l'extrême droite. Voilà, donc c'est juste pour être un petit peu nuancé sur l'expression.
Oui, c'est-à-dire les gens qui sont attachés à ces libertés culturelles, sociales, venues de la gauche, a priori. Voilà. Ce sont des combats de gauche retournés par l'extrême droite.
Et si on veut dire un beau discours de Wilders, c'est le discours qu'il a fait devant le tribunal récemment à son dernier procès, c'est un magnifique discours rhétorique, de quoi il parle en permanence de la liberté d'expression. C'est sa valeur. Alors vous imaginez comme ça peut introduire, évidemment, des recompositions étonnantes dans la tête des gens. Donc les ressorts sont multiples. Là aussi, où il faut peut-être un petit peu nuancer sur le fait qu'il apparaisse peu en public, il ne faut quand même pas oublier qu'il est menacé de mort très sérieusement. Il est dans une situation qui n'est pas confortable. Et ne pas oublier que c'est quand même à la sortie d'une radio que son prédécesseur a été assassiné. Ouais. Donc, les déplacements publics, et connus par définition, lui posent aussi un problème de sécurité, qui se déplace d'une maison à l'autre. Donc, il ne peut pas faire non plus campagne comme tous les autres.
C'est absolument passionnant, cette élection. Stéphane De Vries, qu'est-ce qui peut sortir des urnes, là, selon les dernières enquêtes d'opinion, les alambics des sondeurs, ça pourrait ressembler à quoi?
Et selon surtout ma boule de cristal.
Personnel que vous polissez.
Tout à fait. Ça va être hyper passionnant, parce que selon les derniers sondages, il y aura peut-être 4 partis qui finiront premiers. Donc ils seront tous entre 13 et 16%. Et ensuite, il y a 2-3 partis qui auront à peu près 11-12%. Donc il y aura 6 partis qui sont assez grands, enfin comparables, et puis il y a encore une panoplie, genre 12 d'autres partis. Donc ça veut dire que ça va être extrêmement difficile à former une coalition, parce que les Pays-Bas ont une tradition de coalition, donc il faut forcément trouver une majorité. Dans l'état actuel des sondages, aucune coalition est possible sans au moins 4 partis. Donc ça va être le bordel, ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être, moi je pense pas qu'on aura un gouvernement avant la fin de l'année, et probablement il y aura un gouvernement d'arc-en-ciel qui va des Verts jusqu'aux libéraux de Mark Rutte, l'actuel Premier ministre, et donc pas du tout la vague populiste dont on parle tout le temps, et peut-être, c'est peut-être une bonne nouvelle finalement.
Acceptons-en l'augure, donc on a le temps de vous retrouver tous les deux, on a jusqu'à la fin de l'année pour mettre le point final à cette élection néerlandaise. Merci Stéphane De Vries, correspondant à RTL Pays-Bas en France. Merci Christophe De Vogt, historien, professeur à Sciences Po, ancien directeur de la Maison des Cartes. Vos livres sur le site internet de France Inter, et grand merci à Bertrand Galichet qui était avec nous en direct d'Amsterdam. Ailleurs dans le monde, à suivre sur Inter. Violet was tickling my fancy. Gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old.
shell or a candy. Seems as if I'm spinning down a pole. Swiped them over to the stack of notes. Seen a bunch of times before. An inch away from settling on cold gold. Shame that she's that girl you used to know. Loved it, but we had to let it go.
Mirage d'Alexandra Savior sur Inter, ailleurs dans le monde.
That you are as 4 minutes.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienza las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Michael, on reparle ce soir des anciens interprètes de l'armée française en Afghanistan.
Oui, avec ce soir un témoignage particulièrement rare Nicolas, puisque pour la première fois, un militaire français ose s'exprimer sur le sort de ces 770 Afghans qui ont travaillé pour la France entre 2001 et 2014 en prenant tous les risques. Or aujourd'hui, parmi ceux qui ont officiellement demandé un visa à l'État français, 150 ont été déboutés pour des raisons très floues, inexpliquées. Anciens interprètes qui sont aujourd'hui menacés par les talibans, menacés par le groupe État islamique, qui les considèrent comme des traîtres. Eux se disent abandonnés par la France, contraints de vivre cachés. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
Alors ce militaire que vous avez rencontré a choisi de prendre la parole malgré les risques encourus au sein de l'armée, Julie, pour tout simplement soutenir son interprète en grande détresse.
Alors il ne dira pas son nom parce qu'il tient quand même à sa carrière, mais il parle parce que l'injustice l'insupporte. Ce militaire expérimenté, très expérimenté, est envoyé en Afghanistan en 2011. Sa mission alors, c'est de former l'armée afghane. Il ne parle pas la langue, alors forcément il y a un homme à ses côtés tout le temps, un jeune Afghan, Arifullah Amini, vous l'entendrez un petit peu plus tard. Cet interprète a travaillé 8 ans pour l'armée française. Il a commencé tout jeune, il avait 17 ans. Il était estimé, en témoignent ses nombreuses lettres de recommandation, mais rien à faire, sa demande de visa reste rejetée.
Donc ça c'est par le colonel, hein, le big boss de la mission française. A fait preuve de remarquables qualités professionnelles. Interprète multilinguiste, au sens du devoir particulièrement développé. Intelligent et d'une fidélité indéniable, humble, discret et hautement imprégné de la culture française, mérite tout particulièrement d'être félicité. Donc voilà, on laisse des gens comme ça sur le carreau, quoi.
Vous avez travaillé à ses côtés pendant combien de temps ?
6 mois.
Et à votre avis, qu'est-ce qui bloque dans son dossier ?
Bah, j'y comprends rien, parce que pour moi, c'était celui qui avait le meilleur dossier, quoi. Alors les refus, je les relisais encore cet après-midi, son profil ou son truc correspond pas à ce qu'il faut pour venir en France. Je peux vous dire que si lui ne correspond pas, les autres, personne ne correspond. Hein. Les bad guys, on les a mis de côté, mais depuis longtemps. On a tous vu des interprètes qui, à un moment donné, ont disparu parce qu'on avait fait une enquête sur eux, ils avaient des mauvaises fréquentations, ou ça, c'est... Voilà, c'est comme ça.
Vous prenez la parole aujourd'hui, c'est pas fréquent quand on est dans l'armée ?
Eh ben, c'est-à-dire que quand les gens comme moi parlent, c'est qu'ils en ont vraiment marre, quoi. C'est l'image du pays, hein, on se couvre de honte. Hein. Ils se rendent pas compte, on se couvre de pisse, là. Ils se rendent pas compte. On joue avec les vies des gens, là, quand même. Non, non. Là, on aurait pu faire un truc resplendissant, rapatrier tout le monde, magnanime. Alors, c'est sûr, les mecs vont me dire, ouais, mais ça a un coût. Oui, bah oui, mais Alors c'est sûr, c'est bien fait. Hein. Les 100 qui sont venus, ils sont pris en compte, logés, on s'occupe d'eux, ils font des stages et tout. Oui, c'est sûr, ils ont un coût, mais il a donné l'après des risques. Voilà. Je suis pas pour aider n'importe qui, mais celui qui mérite, on l'aide.
Alors ce militaire se dit prêt à parrainer son interprète, à se porter garant. Il lui a même mis de côté une voiture.
Marboule Motora, belle voiture.
Donc c'est un break, rouge.
Voilà, voilà, voilà. Donc il a ça. Bah oui, il est père de famille, alors il faut un break. Hein.
Et il lui a aussi trouvé un logement, une maison en Bourgogne.
Bon, et que répond le ministère de la Défense, Julie ?
Que délivrer des visas, ce n'est pas son travail, mais celui du Quai d'Orsay, que des interprètes ont déjà été accueillis en France, ce qui est vrai, entre 100 et 175 selon les sources, accueillis avec leur famille. Quand une personne reste bloquée, c'est qu'elle n'a donc pas le bon profil, pas plus de détails. Les critères de sélection ne sont pas toujours très clairs, même si sont évoqués par exemple la capacité d'intégration en France ou la menace qui pèse vraiment sur l'interprète, et un refus n'est jamais, jamais expliqué.
Et justement, hein, en Afghanistan, on l'évoque tout à l'heure, le traducteur Arifoula Amini, lui, ne sait plus comment prouver qu'il est en danger de mort.
Et il a accepté lui aussi de témoigner via Internet.
Tout le monde a des preuves, des menaces. Le preuve que j'étais au danger, c'est que j'ai travaillé avec vous. On n'était pas que des interprètes, on était comme des soldats pour la France. J'ai passé des journées sur le terrain avec vous militaires. On a fait la traduction entre les gens civils et l'armée française. Et c'est ça qui était danger pour nous. Donc ce genre-là, ils sont toujours présents sur le terrain, plus fort qu'avant. Ils ont tous des armes dans leur maison. Et s'ils savent que j'habite dans cette maison, demain soir ou après demain soir, je serai tué par eux en soirée, ça c'est sûr. Pas pendant le jour, parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Ce jour-là, ça ne sera pas très loin, parce que la situation sécuritaire est plus mauvaise qu'avant.
Il est marié aujourd'hui, il a une fille d'un an et demi. Pour se protéger, il déménage régulièrement en France. Caroline Decroix, avocate de formation, le défend, lui et les autres, depuis maintenant 2 ans.
Il n'y a pas d'interprète aujourd'hui qui a été tué, mais ils se sont tous rapatriés à Kaboul. Ils ne peuvent pas sortir de la ville. Ils vivent comme des parias. La plupart n'ont même pas scolarisé leurs enfants. Ils limitent leurs déplacements. La majeure partie aussi n'a pas pu retrouver d'emploi. Donc ce sont des gens qui vivent comme des ombres. Qu'un interprète soit retrouvé décapité ou qu'il y ait un drame, en effet, qui puisse peut-être émouvoir l'opinion publique, peut-être que ça ferait bouger les choses aujourd'hui. C'est triste.
Aujourd'hui, le Quai d'Orsay n'envisage pas de réexaminer les dossiers de ces hommes. L'Association de défense des interprètes afghans en appelle désormais directement à François Hollande. Une lettre détaillée lui a été envoyée sans réponse pour l'instant.
Voilà, ces anciens interprètes qui vivent comme des ombres. Merci beaucoup Julie Pietri, et j'ajoute que vous pouvez écouter en podcast sur franceinter.fr un formidable reportage également du magazine Interception consacré précisément à ces anciens interprètes afghans.
Et comme chaque mercredi, place maintenant, Mickaël, à cette actualité européenne qui échappe au radar médiatique.
Et comme toujours avec Quentin Dickinson, qui est ce soir en direct de Luxembourg. Bonsoir mon cher Quentin.
Bonsoir Mickaël, bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Alors Quentin, depuis 10 ans maintenant, on voit exploser le nombre d'études, de classements, de palmarès qui prétendent mesurer le travail des eurodéputés et donc désigner les meilleurs d'entre eux. Les résultats en sont assez disparates et ils reflètent le plus souvent la notoriété gagnée sur les plateaux de télé. Alors Quentin, pour donner à chacun sa chance de briller dans tous ces palmarès, vous aviez envie de nous révéler quelques tuyaux utiles.
Eh bien oui, et ce soir je veux m'adresser à tout eurodéputé paresseux mais en quête de gloire. En session plénière, remplissez bien le registre d'émargement à l'entrée de l'hémicycle. Après, bien sûr, vous sortez, allez faire ce que vous voulez, tout en surveillant tout de même les écrans qui retransmettent en direct la séance. Vous saurez ainsi quand le moment est venu de revenir vous asseoir à votre place, de voter pour n'importe quoi et de demander ensuite à prendre la parole pendant 1 minute pour expliquer les raisons de votre vote. Votre nom figurera dans le compte-rendu de la séance. Un point marqué. Inspirez-vous de quelques collègues italiens et croates, ce sont les spécialistes de l'exercice. Vous pouvez aussi procéder par écrit, quelques lignes suffisent et votre stagiaire non rémunéré s'en chargera très bien. Prenez pour modèle un élu français, actuellement candidat à la présidence de la République. Vous pouvez aussi poser des questions écrites à la Commission européenne sur tout sujet qui vous passe par la tête. Là aussi, votre stagiaire saura faire. Certains de vos collègues ont été jusqu'à en pondre 1000 par an. Malheureusement, vous êtes maintenant restreint à 20 tous les 3 mois, mais c'est bien quand même.
Bon, alors le député paresseux doit tout de même s'inscrire dans une commission parlementaire. Quentin, comment fait-il pour choisir ?
Eh bien, mon conseil, choisissez de préférence de rejoindre la commission du contrôle budgétaire. Chaque année, elle vote la décharge des institutions et des agences européennes. C'est pain béni. Sautez sur l'occasion, il ne vous en coûtera qu'une dizaine de lignes par décharge. Et vous pouvez aussi proposer des amendements. Un point virgule par ici, un adjectif par là, et le tour est joué. Même pas besoin que l'amendement soit adopté, vous engrangez encore des points. Vous pouvez aussi signer frénétiquement toutes les propositions de résolution rédigées par vos collègues, autant de points qui se rattachent à votre nom. Enfin, évitez de réclamer qu'on vous confie un rapport à rédiger, ça c'est un vrai travail, mieux vaut le laisser aux pros, d'autant qu'il n'y a que des coups à prendre.
Bon alors, tout cela est-il vraiment utile ?
Utile, certainement pas. Mais ici, tout le monde sait que les classements au mérite des eurodéputés sont étroitement subjectifs et parfaitement injustes. Mais il n'empêche, tout le monde se verrait bien en haut de l'affiche et donc personne ne dit ce qu'il en pense vraiment.
Wow, Quentin Dickinson en direct de Luxembourg. Merci beaucoup.
Et pour finir, Michael, vous avez souhaité nous parler ce soir de Lulia Samoilova.
Oui, chanteuse russe de 27 ans, très jolie jeune femme, en fauteuil roulant, handicapé moteur depuis son enfance et qui en Russie connaît une carrière en pleine ascension depuis 2014 lorsqu'elle avait chanté lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Sotchi. Mais depuis trois jours, Lulia est au cœur d'une polémique transfrontalière à cause de cette chanson. Voilà, extrait de Flame is Burning, une flamme brûle, Nicolas, balade romantique et nostalgique, un brin sirupeux, oui, c'est vrai, oui. Mais qui a en tout cas été choisi pour représenter la Russie à l'Eurovision 2017, édition qui se tiendra à Kiev en Ukraine le 13 mai prochain, et c'est là évidemment que ça coince. Quand une compétition ringarde devient une bataille diplomatique, car la représentante russe a eu la mauvaise idée de donner un concert en Crimée. La Crimée, cette province ukrainienne annexée par la Russie le 18 mars 2014, Lulia Samoilova est une arme de propagande de Moscou, s'insurge la presse ukrainienne. Le député de Kiev, Sergueï Vysotsky, menace lui directement la jeune femme. Si tu chantes à un concert des occupants en Crimée, tu violes notre souveraineté et tu t'exposes à une interdiction d'entrée en Ukraine. Cascade de réactions identiques sur les réseaux sociaux. De très nombreux Ukrainiens appellent solennellement le gouvernement à interdire la participation de la jeune femme. Le comité d'organisation de l'Eurovision se cache derrière les textes officiels. Oh là là, toute prise de position politique est interdite par le règlement. Mais les services de sécurité ukrainiens annoncent déjà sur Facebook qu'ils étudient la question d'une interdiction de territoire. Le Kremlin la joue profil bas, rappelant simplement qu'il s'agit d'un concours international et que le pays organisateur doit strictement suivre les règles du concours. Quant à Lulia Samoilova, elle dit essayer de ne pas penser à la polémique. Participer à l'Eurovision devant 200 millions de téléspectateurs, c'est le rêve de ma vie, assure la jeune chanteuse russe. À demain.
Michael Thébault, sous vos applaudissements, 18h50.
France Inter, le 18-20, Nicolas Demorand.
Je vous le disais, Pays-Bas, France, Allemagne, trois élections déterminantes en Europe cette année et un nouveau rendez-vous dans l'émission avec le journal de la campagne allemande. Le compte à rebours électoral est lancé. Dans un peu plus de six mois se tiendront des élections fédérales avec à la clé peut-être un quatrième mandat de chancelière pour Angela Merkel après 12 ans de pouvoir. Mais le scrutin s'annonce incertain avec le retour en force des sociaux-démocrates emmenés par l'ancien président du Parlement européen, Martin Schulz, et la poussée des populistes de droite de l'AFD dans un pays qui reste profondément divisé par la crise des réfugiés. Cyril Sauvageau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Berlin. Nous allons donc suivre avec vous cette campagne allemande dans les prochaines semaines, les prochains mois. Le parti d'extrême droite AFD vient de faire son entrée en campagne, Cyril, avec un programme qui cible tout particulièrement l'islam et les migrants.
Et pourquoi changer une recette qui marche? L'AFD a fait ses meilleurs scores au plus fort de la crise des réfugiés, avec des scores à deux chiffres, parfois au-delà des 20% dans plusieurs élections régionales en 2016. Le parti d'extrême droite est désormais présent dans plus de la moitié des parlements régionaux et le prochain objectif, eh bien, c'est le Bundestag en septembre. Alors pour frapper un grand coup, l'AFD n'hésite pas à noircir le tableau. L'Allemagne serait débordée par l'immigration, à la merci du terrorisme, comme l'a démontré l'attentat de Berlin le 19 décembre. Berlin ne doit pas devenir Bagdad, estime la chef de file de l'AFD, Frau Petri, qui veut durcir les lois.
Nous souhaitons mettre en place la déchéance de nationalité pour tous les migrants criminels, quitte à en faire des apatrides.
Plus d'expulsions, plus de contrôles, l'AFD propose le rétablissement des frontières et de sévères restrictions du droit d'asile. Albrecht Glaser est le responsable du programme du parti.
Il nous paraît impossible de maintenir en l'état le système actuel qui permet à n'importe qui dans le monde de demander l'asile en Allemagne. Cela doit changer.
Le tournant sécuritaire entamé depuis plusieurs mois par la CDU d'Angela Merkel n'est donc pas suffisant pour les populistes qui veulent aller plus loin. Reste à voir si cette stratégie sera payante alors que la crise des réfugiés ne fait plus autant la une de l'actualité ici qu'il y a encore 6 mois.
On le voit donc, Cyril, un programme très ancré à droite sur les questions d'immigration et de sécurité. Mais l'AFD se découvre également une fibre sociale et ça c'est nouveau, hein.
Oui, il faut se souvenir qu'au départ, l'AFD est un parti fondé par des économistes eurosceptiques qui ne voulaient plus que l'Allemagne paye pour la Grèce et les pays du Sud. C'était vers 2013. Depuis, le parti a complètement changé de logiciel. On l'a vu avec des thèmes identitaires très marqués. Il y a donc peut-être une logique à ce que désormais l'AFD propose des mesures sociales quasiment de gauche à la manière du Front National en France. Il veut par exemple allonger la durée d'indemnisation des chômeurs. Un changement de stratégie qui ne surprend pas Werner Patzelt. Il est politologue et spécialiste de l'extrême droite.
Avec ces propositions, l'AFD cible tout particulièrement les classes populaires. Une partie de l'électorat qui votait auparavant pour Die Linke dans l'Est et pour le SPD dans l'Ouest a déjà basculé vers l'extrême droite. La question de la durée de l'indemnisation chômage est donc un thème porteur pour cette campagne.
Un moyen de contrer les sociaux-démocrates du SPD. Leur candidat Martin Schulz fait un début de campagne très ancré à gauche sur le thème de la justice sociale et pour tenter de regagner justement une partie de cet électorat populaire qui s'est laissé séduire par l'extrême droite.
La justice sociale, ce sera sans doute donc le thème transversal de cette campagne, Cyril. Les sujets de débat sont nombreux avec par exemple l'accès aux études supérieures.
En Allemagne, oui, l'université reste réservée à une minorité, il faut bien le dire. Le système allemand est connu pour être assez élitiste, avec une orientation précoce des élèves vers les filières d'apprentissage. Alors, il ne s'agirait pas de tout remettre à plat, personne ne propose ça, mais de permettre un meilleur accès aux études supérieures. Martin Schulz, le candidat SPD, en parle dans un entretien à Die Zeit. Il propose d'augmenter les bourses d'études de ce qu'on appelle ici BAföG. BAföG, c'est l'abréviation du mot allemand, tenez-vous bien, Bundesausbildungsförderungsgesetz, une mesure qui est prônée de longue date par l'opposition de gauche.
Pour terminer, Cyril, un coup d'œil au sondage. L'effet Martin Schulz se confirme dans les dernières enquêtes d'opinion?
Oui, avec notamment 2 sondages parmi beaucoup d'autres. Le premier paru ce matin pour le magazine Stern. La CDU d'Angela Merkel à 33%, le SPD à 32%. Les deux grands partis sont donc toujours au coude à coude. Et puis, autre sondage mené celui-là dans les Länder de l'Est. Là, on constate une percée très intéressante, importante des sociodémocrates qui étaient pourtant moribonds dans ces régions où l'extrême gauche et l'extrême droite sont particulièrement bien implantés.
Le journal de la campagne allemande, nouveau rendez-vous que nous vous proposons avec Cyril Sauvageau. Donc merci Cyril, vous étiez avec nous en direct depuis Berlin.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Et à 18h55, c'est l'édito d'Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Vous nous parlez ce soir du brûlant dossier turc.
Et oui, l'escalade en Europe se poursuit depuis que le président turc Erdogan a traité les Allemands et les Néerlandais de nazis parce qu'ils avaient refusé que des ministres turcs viennent faire campagne pour un référendum en Turquie. Alors ce matin, c'est la Bild Zeitung en Allemagne qui se déchaîne sur une pleine page, vous voyez.
La une est impressionnante.
Donc Bild jette la vérité au visage d'Erdogan. Monsieur Erdogan, vous n'êtes pas un démocrate, vous êtes nuisible à votre pays, vous n'êtes pas bienvenu chez nous, dit la Bild Zeitung, premier journal. À l'intérieur, elle attaque le petit homme du Bosphore. Alors, ses propos ne sont pas indifférents, notamment dans le contexte de la campagne électorale allemande dont on vient de parler il y a quelques secondes. Il faut contrer attaquer l'extrême droite. Le propos est excessif, mais soyons clairs, Erdogan nous traite de nazis. L'Europe, c'est un espace de bienveillance, de réconciliation, construit sur les décombres de la Deuxième Guerre mondiale et justement les crimes nazis. En utilisant ce vocabulaire, Erdogan montre que la Turquie ne fait pas partie de la famille européenne. D'ailleurs, Nicolas, elle n'en a jamais fait partie. Il est grand temps de lui dire cette vérité. Son statut de candidat à l'Union européenne lui avait été octroyé en 1999 par une succession de lâchetés. Il fallait honorer une promesse faite en 1963, sans voir que l'Europe était depuis devenue un projet beaucoup plus politique. 2, il fallait élargir l'Europe au maximum, la faire coïncider avec l'OTAN pour qu'elle ne soit qu'une zone géo-économique. C'était le dessein anglais et américain. Et troisièmement, il fallait prouver ad absurdum, c'était l'idée des socialistes français, que l'Europe n'était pas un club chrétien, donc il fallait faire rentrer un pays géant et musulman. Tout cela, de toute façon, est fini. La Turquie ne sera pas admise.
Et pour quelle raison, Arnaud ?
Deux raisons, la dérive autocratique d'Erdogan et son néo-ottomanisme. Alors d'abord, la Turquie ne respecte plus les critères démocratiques dits de Copenhague, qui exigent de respecter l'état de droit, la séparation des pouvoirs, l'économie de marché. Seule l'Union européenne ne s'en est pas encore aperçue. Erdogan muselle la presse, emprisonne à tout va, menace de rétablir la peine de mort même s'il ne l'a pas fait, et combat les Kurdes depuis le coup d'état manqué du 16 juillet. Cette dérive est en germe, Nicolas, depuis longtemps. Paradoxalement, nous confie le géographe Michel Fouché, c'est la perspective d'adhésion qui a permis à Erdogan de liquider l'armée au nom des principes de Copenhague, certes peu démocratique, mais en réalité cette armée était aussi porteuse des valeurs occidentales. Le second choc, on l'a vu, c'est la bascule néo-ottomane. Les Européens, notamment Merkel et Sarkozy, ont une part de responsabilité. Leur turco-scepticisme a découragé la population turque. Europhile, amoureux et conduite, l'opinion turque a laissé Erdogan enfourcher son combat nationaliste. Alors au début, ça lui a bien réussi. Rappelez-vous, lors des printemps arabes en 2011, la Turquie faisait figure de modèle dans le monde méditerranéen après des années de réformes, des efforts diplomatiques. Elle avait apaisé ses relations avec la plupart de ses voisins. Eh bien, en dépit d'un récent rabibochage avec les Russes, la Turquie est aujourd'hui au cœur de tous les conflits. C'est elle-même qui sait largement s'aborder.
Et faut-il rompre, Arnaud, les négociations d'adhésion immédiatement, rapidement ?
Non, certainement pas. C'est ce que nous disent les diplomates. Il faut d'abord attendre le référendum turc et les élections aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Ne pas rompre les canaux de discussion. Mais il faut préparer une relation nouvelle à la Turquie. D'abord, en recréant un rapport de force, c'est ce qu'a expliqué sur cette antenne Hubert Védrine hier matin. L'Europe ne peut pas être à ce point dépendante de la Turquie qui peut décider du jour au lendemain de laisser passer des réfugiés par centaines de milliers. C'est trop déstabilisant. Ça implique deux choses titanesques. Un réinvestissement massif en faveur de la paix au Proche-Orient et la construction de vraies frontières européennes, en particulier en Grèce. Et deuxièmement, il faut cesser de parler aux Turcs comme s'ils étaient des Européens. Comme le dit notre ami Jean-Louis Bourlange, il faut traiter Erdogan comme le maréchal Sisi, président d'Égypte, très peu démocrate et avec qui nous faisons pourtant affaire. Un rapport froid, cynique, sans pathos et qui ne sera peut-être pas plus néfaste pour les droits de l'homme, Nicolas. Bref, retrouvons la réelle politique.
Merci Arnaud Leparmentier. En un mot, le téléphone sonne à 19h20 sur la transparence de la vie publique, 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.